Une production des studios Bars.
Bonjour et bienvenue au troisième podcast Cerveau unique en équilibre. Alors, je me présente, je suis Sonia Hamza, je suis ergothérapeute pour Alternative Caméléon et je suis avec ma collègue Guylaine Carrière, hypnologue.
Oui, à la clinique SOS Hypnosis avec un X at gmail.com.
Alors aujourd'hui, on avait le goût de vous parler d'un aspect qui est peut-être un petit peu plus en lien avec l'ergothérapie, mais qui est super intéressant et pour lequel j'ai beaucoup de questions et de demandes aussi de la part des parents, entre autres, c'est des stratégies sensorielles. Quelles stratégies sensorielles appliquer dans les différents milieux de vie de l'enfant, donc soit à la garderie, à la maison bien sûr, ou à l'école, pour essayer de faciliter la disponibilité chez l'enfant. Donc aujourd'hui, on va faire dans un premier temps un survol sur c'est quoi, dans le fond, nous on parle de particularités sensorielles en ergothérapie et on a souvent des demandes d'évaluation pour des enfants qui ont des problématiques à ce niveau-là pour voir s'ils ont des hypersensibilités ou des hyposensibilités et comment on peut les aider dans leur fonctionnement quotidien. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie, au départ, de vous expliquer un petit peu de théorie, vous expliquer un petit peu de quoi on parle quand on parle des sens. Toi, Guylaine, est-ce que tu sais quels sont nos sens?
En fait, je connais surtout le sixième, là, qui est l'intuition, mais toi, Sonia, là, ton créneau d'ergothérapie, surtout à l'aube de la rentrée, je suis certaine que tu veux nous parler des cinq sens.
Oui, alors si on les nomme, exemple, ensemble, les cinq sens, on a la vue, on a l'ouïe, on a l'odeur, on a le goût.
Le exact. Toucher.
Le toucher que nous, on va appeler souvent en ergothérapie la sphère plus tactile. Mais savais-tu, Guylaine, qu'il y a deux autres systèmes qu'on parle moins, qui sont des systèmes sensoriels super importants chez l'enfant?
En fait... Pour avoir trois enfants moi-même, est-ce que tu veux nous parler du vestibulaire?
Oui, ça, c'en est un.
Et l'autre, j'aurais pas idée.
Non?
Éclaire-moi.
C'est la proprioception. Donc, la proprioception, je vous explique, c'est quoi? C'est l'information qu'on a dans les muscles, dans les articulations, qui nous permet d'avoir une bonne connaissance, conscience de notre corps dans l'espace. Alors, des fois, ce que je fais comme exercice quand je donne des formations, je vais dire aux gens, fermez vos yeux, puis êtes-vous capable, les yeux fermés, de me dire comment votre corps est positionné? Par exemple, si on tient un crayon, on boit, et on a les jambes croisées, on devrait être capable d'avoir l'information de notre corps dans l'espace sans nous voir. Ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception.
Est-ce que c'est un défi chez les TSA, Sonia?
Absolument, chez les TSA et chez les enfants qui ont des particularités qu'on va regarder un petit peu plus loin, ça devient un défi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est le sens de la proprioception. L'autre sens qui est très intéressant, c'est le sens que tu m'as parlé, le vestibulaire. Le vestibulaire, ça vient avec, et là je vous donne un petit peu de théorie, au niveau de l'oreille, on a l'oreille interne, on a des canaux semi-circulaires et dans ça, il y a du liquide qui circule. Et quand on tourne la tête, on a l'information du liquide qui va nous informer sur le corps dans l'espace en fonction du mouvement. C'est ce qui fait que si je penche ma tête, par exemple, d'un côté, bien, mon corps va se réajuster, va se réadresser. Donc, le mouvement de la tête va s'arrimer avec le mouvement du corps. Alors, le système vestibulaire et proprioceptif est très, très, très interrelié. Des fois, quand on a des labyrinthites, on a des problématiques qui vont toucher l'oreille et des infections comme ça vont venir toucher l'équilibre aussi à cause de ça. On perd un petit peu la perception quand on est en mouvement. Donc, le système vestibulaire va être important pour être disponible aussi dans tout notre quotidien quand on apprend les tâches du jeu, quand on est plus jeune ou éventuellement au niveau de la productivité aussi.
Parfait. Donc, Sonia, est-ce que ça serait, par exemple, moi, là, en auto, j'ai super mal au cœur. Ça a-tu rapport au vestibulaire?
Oui, ça peut avoir rapport au vestibulaire, ça peut avoir, s'interrelier aussi avec le visuel, le vestibulaire. Donc, si je me sens pas bien, puis j'ai mal au cœur, j'ai pas les pieds groundés, puis visuellement, je regarde un peu dehors, puis là, je suis pas bien. Ou même dans des manèges, des fois, ce qu'on va dire aux jeunes, c'est « OK, appuie bien tes pieds pour avoir une surface. » On avait parlé un peu dans l'épisode 1 d'avoir les pieds appuyés sur une surface, par exemple, un petit contenant de lavite ou autre. Et on va dire de fixer un point, des fois, visuellement. Ça va venir calmer le système nerveux, puis ça peut diminuer un peu ce que tu parles, le mal de cœur, qui peut arriver dans des cas plus d'hypersensibilité. Donc, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Pour être capable là, d'avoir accès vraiment à un bon développement, puis surtout une bonne attention, il faut qu'on soit capable de bien se moduler au cours de la journée. Donc, il faut que notre niveau d'éveil, notre niveau d'apprentissage soit le plus possible dans une zone qu'on appelle optimale. OK? Donc là, si je te parle, mettons, Guylaine, puis qu'il y a des bruits autour de nous, ça se peut que des fois l'attention soit prise par les bruits. Mais ce qu'on veut faire dans une journée, c'est que même s'il y a quelqu'un qui bouge à côté de nous, ou s'il y a des bruits ou il y a des telles distractions, on devrait être capable de rester concentré dans la tâche. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle être attentif, puis avoir une bonne disponibilité, un bon éveil dans les apprentissages. Ce qu'il faut comprendre, c'est chez les enfants qui ont des particularités dans leur développement, que ce soit des enfants TSA, des enfants TDAH, des enfants qui ont des troubles développementaux de la coordination, souvent, c'est des enfants qui n'ont pas une bonne conscience de tout ce qui est de leur corps ou qui vont réagir beaucoup à l'environnement. Donc, quand on parle, nous, en ergo, de l'intégration sensorielle, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà entendu, Guylaine.
Mais continue, c'est intéressant que tu m'expliques davantage.
C'est complexe, mais l'intégration sensorielle, c'est être capable d'intégrer les sens de l'environnement, de trier ça au niveau du système nerveux pour demeurer attentif, demeurer, comment je peux dire, performant dans nos apprentissages, même si c'est le jeu. Donc, d'être capable d'être fonctionnel. Si je trie pas bien l'information de l'environnement puis je suis complètement éparpillée, c'est sûr que je serais pas capable de donner un rendement qui va être adéquat dans mon milieu. Fait que là, si on arrive avec, maintenant je fais une évaluation d'un jeune, parce que c'est souvent un motif de consultation en ergothérapie, si je fais une évaluation d'un jeune puis je me rends compte qu'il y a de l'hypersensibilité, OK? On peut avoir deux types de profils. On peut avoir des enfants hypersensibles. On peut avoir des enfants hyposensibles. Des très complexes, là, je veux dire juste la base, OK? Puis on peut avoir des enfants, on va dire, avec des profils mixtes. Nous, en ergo, on va l'évaluer avec ce qu'on appelle le profil sensoriel de, entre autres, souvent, c'est le profil sensoriel de Winnie Dunn. Et on va passer ce questionnaire-là soit à la garderie ou à l'école et aux parents. Fait qu'on va regarder les différents milieux. On va aussi faire des évaluations en observation, en ergothérapie. Des fois, des évaluations aussi plus formelles pour aller chercher la motricité au travers de ça. Et là, ça va nous permettre de dégager des profils. Fait qu'on peut pas juste regarder un enfant et penser qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il en est aussi au niveau de son développement sensoriel. C'est une petite bémol, OK? Maintenant, si moi, il consulte en ergothérapie ou une autre ergo et toi, tu l'as dans ton bureau, ce jeune-là, et que tu arrives avec un enfant qui a des particularités, on va commencer par se parler de l'hypersensibilité. Donc, dans nos profils, ça va sortir sur, je vais le nommer comme ça, deux types de comportements, soit un comportement qu'on appelle la sensibilité sensorielle ou un comportement qu'on appelle l'évitement. Alors, je te résume. Un enfant qui est hypersensible devrait être hypersensible sur plusieurs sens. On a parlé tantôt de la vue. On a parlé du bruit. Souvent, on le voit chez les jeunes avec le bruit. On a parlé des odeurs. Un enfant, ça sent pas bon. Il est pas bien dans un environnement parce que ça sent le pâté chinois, par exemple. Et il sera pas confortable. Ou d'autres odeurs, le fromage. Ensuite, on a parlé du goût. Les enfants qui sont pas capables non plus d'avoir des réactions de haut le cœur dès qu'ils commencent à manger. Des fois, ça peut même déclencher des vomissements. J'ai eu ça aussi en intervention. Et ce qui sort souvent, c'est aussi l'hypersensibilité au niveau du toucher. Alors ça se manifeste comment? Ça se manifeste avec des inconforts avec les vêtements, c'est souvent un des signes, ou des inconforts avec la proximité des autres enfants, des inconforts avec tout ce qui est des textures, hein? Faire la peinture à doigts quand ils sont jeunes, des fois même la pâte à modeler, donc des inconforts sensoriels qui touchent plusieurs sphères. On va parler plus d'un profil. Si je reste dans la stimulation, j'appelle ça de la sensibilité sensorielle, je suis pas bien, ça joue sur mon comportement, mais ma stratégie, elle demeure, je demeure dans une situation où je suis pas bien. Fait que souvent, je vais être plus agressif dans mon comportement. Je vais être plus, je peux être plus anxieux aussi. Si je suis dans un portrait d'évitement, ben c'est des enfants qui vont éviter. Ils peuvent éviter des modules de jeu s'ils sont pas confortables dans les balançoires. Ils peuvent éviter une situation où il y a du bruit, etc. Je sais pas si ça l'éclaire pour ce bout-là.
Ça éclaircit beaucoup. Maintenant, pour les hyposensibles, comment est-ce que ça se manifeste dans les comportements?
Donc, un enfant qui est hyposensible, je trouve que c'est des fois un peu plus complexe à venir comme identifier, surtout quand on n'a pas les connaissances théoriques autour de ça, la formation. Mais ce que je peux vous expliquer, c'est que nous, dans nos profils d'évaluation, on a aussi deux types d'enfants. Et là, je ne veux pas perdre mon interlocuteur. Je vais essayer d'être précise. Tu me corriges, Guylaine, si ce n'est pas clair. Donc, on a des enfants qui vont être en recherche sensorielle. Un enfant qui est en recherche sensorielle, là, c'est nos typiques TDAH qu'on voit, qui vont bouger dans l'espace, qui vont être toujours en mouvement, qui vont tomber en bas de leur chaise, qui vont avoir de la difficulté à rester bien stable dans leur corps. Et des fois, ça va avec une certaine hyposensibilité. Donc, je sens pas bien mon corps ou je suis pas en éveil optimal avec mon corps. Je vais me mettre à bouger. Et quand je bouge, je suis plus disponible.
Donc, est-ce que ça se peut qu'il fasse exprès pour faire semblant qu'il s'enfarge ou qu'il tombe en bas des marches ou X, Y, Z pour sentir leur corps davantage?
Donc, je dirais pas exprès, dans la mesure où c'est comme un peu inconscient tout ça, mais est-ce qu'il peut sauter plus, mettons, sur le divan pour optimiser la conscience de son corps? La réponse est oui. Fait que c'est pour ça que souvent, c'est des enfants qui vont être beaucoup, beaucoup en mouvement. L'autre pôle, c'est un enfant qu'on va dire avec un profil de faible enregistrement sensoriel. C'est des termes, là, mais c'est juste pour dire que ces enfants-là, souvent, ils ont un manque de tonus musculaire. Puis s'ils ont un manque de tonus musculaire, puis qu'ils sont plus, nous, on va dire des fois hypotoniques, ça veut dire vraiment, j'ai pas beaucoup de force dans mon corps, j'ai pas beaucoup de force dans mes jambes, dans mon tronc, dans mes bras. Et là, ben, je suis en faible enregistrement, ça veut dire que je vais avoir de la difficulté à m'engager aussi dans des activités à cause de tout ça. Et mon attention, ma disponibilité affective aussi, va être plus difficile à mettre en branle, si on veut. Fait que ça peut être aussi du registre de l'hyposensibilité. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de nuances, OK? Là, on donne un peu la base, il y a beaucoup de nuances. On sait que les enfants TDAH, il y a une partie où c'est plus des troubles sensoriels. D'autres fois, c'est vraiment plus de l'hyperactivité, plus cognitive. T'sais, ça devient comme entremêlé avec la comorbidité. Mais là, j'essaie juste d'isoler certains concepts pour, après ça, vous donner des trucs dans votre quotidien. Est-ce que ça, c'est clair un peu pour l'hypersensibilité puis l'hyposensibilité?
Oui, oui. Je distingue mieux maintenant, je te remercie.
OK, merveilleux, excellent. Donc, après ça, c'est quoi les exemples de défis qu'on peut rencontrer, exemple à la garderie ou à l'école, à la maison? C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que le réflexe naturel d'un enfant, quand même, c'est de bouger. Hein. Quand ils sont jeunes, dans tout le développement de l'enfant, ça fait partie de la curiosité de pouvoir aller assez rapidement aussi, tout ça. Alors, ça, c'est normal, OK? Puis, moi, je ne suis pas non plus de l'approche que tous les enfants, au contraire, doivent être assis et écouter l'enseignante. Je pense qu'il y a un besoin naturel qu'on doit répondre et je vous donnerai tantôt des stratégies pour ça. Mais quand on a des enfants qui ont encore plus ce besoin-là parce qu'ils n'ont pas une bonne conscience de leur corps, il faut savoir que si on adapte l'environnement, ça va les aider. OK? Donc, si je vous donne des exemples de défis à la garderie ou à l'école, comme je vous le nommais tantôt, c'est que ça va être des enfants qui vont avoir tendance à se mettre des fois en retrait ou à être en crise ou à avoir de la difficulté à fonctionner souvent dans les transitions, les routines, mais surtout les transitions parce qu'il y a trop d'éléments extérieurs. Il y a l'habillage hein, en hiver particulièrement. Il y a l'extérieur, il y a le bruit, il y a le mouvement. Et là, c'est là que ça va popper un peu. Puis ce qu'on voit, souvent, ça va être un effet comme plus de surcharge. Fait que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'enfant risque d'accumuler des inconforts dans un cas d'enfant hypersensible. Puis là, s'il accumule des inconforts, à un moment donné, il ne sera plus bien, puis là, il va comme exploser. Donc, moi, ce que je trouve qui est super important dans les écoles, entre autres, c'est de faire attention aux déclencheurs des crises, aux déclencheurs des comportements. Parce que je n'interviendrai pas de la même façon, on s'entend.
Tout à fait. Puis, étant donné que tu en nommes plusieurs déclencheurs possibles et qui semblent s'accumuler, là, comme on dit, tous les éléments si haut mentionnés, là, fait que depuis le matin là, que ma maman me dit « Dépêche-toi en dehors de ton lit, dépêche-toi dans ta salopette, dépêche-toi dans l'autobus, OK. » À un moment donné, et ça sent pas bon dans ma boîte à lunch, et l'autre ami qui crie, et la chaise qui bouge. À un moment donné, quand ça explose, toi, en tant qu'ergo, là, est-ce que tu aurais un truc ou plusieurs à nous donner pour dire, bon, surtout à l'aube de la rentrée, comment on fait pour justement distinguer ça, cet enfant-là, qui aurait besoin de se recentrer sur lui-même pour être réceptif à ce que la professeure a besoin d'enseigner?
Oui, en fait, c'est vers ça que qu'on va aller, d'adapter entre autres l'environnement de l'enfant. Ça va lui permettre d'être plus fonctionnel dans son milieu. Donc, si je regarde à la garderie, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il va avoir, puis à l'école aussi, souvent, on appelle ça en anglais le flexible sitting, l'aménagement flexible. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça.
Je crois que les gens qui travaillent chez Google ont ça. Ils ont des beanbags, que ça soit dessus.
Ah, chez Google. Mais en tout cas, dans les écoles, il y a des coins où on va avoir l'aménagement flexible. Donc, la possibilité que l'enfant travaille pas juste en position assise à son bureau. Par exemple, en position debout. Par exemple, il peut travailler sur des coussins ou du matériel qui va bouger. Sur le ventre aussi, dans un petit coin calme. Donc, l'aménagement flexible va permettre justement de répondre à ce besoin-là de l'enfant avec des beanbags, avec des tapis. Et ça, ça va lui permettre de, effectivement, il va pouvoir mieux s'adapter par la suite. Je sais qu'il y a des parents, des fois, qui se questionnent. Est-ce qu'on met trop d'outils en place pour aider l'enfant? Puis plus tard, ça va lui nuire quand il va arriver au secondaire, quand il va arriver au cégep, quand il va arriver à l'université ou au monde du travail, faire un DEP ou autre. Bon, c'est une bonne question. Moi, je travaille beaucoup avec les petits et moi, je reste à penser que quand on travaille bien la base au niveau du neurodéveloppement, ça va aider l'enfant au contraire à être beaucoup plus disponible aux apprentissages. Si je tombe dans le comportement négatif, puis là, je veux absolument que l'enfant il reste assis, mais que lui, il n'est pas capable parce qu'il n'apprend pas de cette façon-là. Hein, tu le sais que des fois, on apprend en kinesthésique, en mouvement. On en a parlé un peu aussi dans le premier podcast. Il y a différents modes d'apprentissage. Donc, pourquoi pas permettre à l'enfant d'avoir l'environnement qu'il a besoin pour être le plus efficace possible, le plus curieux possible, le plus ludique possible aussi dans son mode à lui d'apprentissage. De toute façon, là, les étapes de développement là, qui se font jusqu'au primaire, à un moment donné, vont rentrer dans l'ordre. Puis quand on arrive avec des stratégies plus par exemple, cognitives, là, des apprentissages, je devrais dire, plus complexes là, au secondaire, la base, quand elle est bien intégrée, au contraire, ça va permettre d'être beaucoup plus disponible, mieux organisé. Donc, moi, j'aurais pas d'inquiétude à ce niveau-là.
D'accord. Donc, est-ce que tu nous dis en résumé, Sonia, que pour ce qui est de contraindre ou de restreindre un enfant dans ses besoins, c'est peut-être pas une technique à préconiser de façon très forte et officielle tout le temps dans les classes, parce que selon le besoin naturel de l'enfant de bouger, il faut trouver une façon que lui bouge, qui répond à son besoin, parce que naturellement, si c'est ça que son corps lui dicte, clairement que c'est ça qui va l'apaiser, une façon adaptée à ce qu'il puisse faire ça en classe ou en garderie ou peut-être qu'il y a une partie de son corps qui bouge dans l'autobus, par exemple, s'il y a un objet sensoriel ou XYZ.
Oui, c'est exactement ça, dans le fond, que je te dis. Là. Absolument, tu as bien compris par rapport à ça. Puis c'est pour ça que je te dis que les écoles, maintenant, ça, je suis contente de voir ça. Parce que, pour vrai, quand j'ai commencé ma pratique, il y a, mettons, 20 ans, ça n'existait pas du tout. Là. Puis là, je te dirais que depuis les 10 dernières années, là, l'aménagement flexible est un peu partout dans les écoles primaires. En tout cas, moi, je suis à la commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles. Puis au contraire, et les profs, là, sincèrement, voient une différence dans les apprentissages des enfants. Peut-être que ce que je pourrais regarder un petit peu avec vous aussi, c'est les stratégies sensorielles qui peuvent être intéressantes à mettre en place. J'ai le goût de partir avec, mettons, une classe à l'école, OK? C'est quoi les stratégies qu'on peut mettre de façon générale avec le groupe, puis on regardera après de façon plus spécifique avec certains types d'enfants. Et si je regarde le groupe, on s'est parlé tantôt d'aménagement flexible, d'avoir un coin calme avec des outils sensoriels. Tu m'as parlé des fidgets. Hein? On pourrait dire une boîte à calme avec des objets à manipuler. Ça peut nous aider à quoi? Un, ça peut aider des fois l'enfant, s'il bouge les mains, il est plus capable de rester attentif à ce que l'enseignante va dire. Des fois, ça fait pas ça. Des fois, l'enfant regarde l'objet, puis là, il est plus distrait. C'est sûr que dans ce temps-là, on fait de l'essai-erreur, puis on va préconiser ce qui fonctionne pour le jeune. Mais il y a des moyens comme ça, ou des bandes élastiques, où quand l'enfant a ce qu'on appelle un peu de proprioception au niveau des mains, à ce moment-là, vraiment, ça l'aide à être plus attentif. Ou au niveau des jambes, on va mettre des fois des espèces de bandes élastiques au niveau des pattes de chaise. L'enfant va bouger, puis quand il bouge en même temps, il est plus réceptif à ses apprentissages. Ça, c'est super intéressant. Ensuite, quelque chose qui est connu, le matériel lourd. Est-ce que tu connais les lézards lourds?
Ben oui, bien sûr.
OK. Fait que les lézards lourds, ça va nous aider aussi à dire, OK, je vais mettre la proprioception au niveau, mettons, des cuisses de l'enfant ou au niveau des épaules. Et ce qui est important de respecter, là, c'est 5 à 10 % du poids de l'enfant. Fait qu'il y a tout plein de types de matériel lesté qu'on appelle, qu'on peut avoir accès. Si on respecte entre 5 et 10 % du poids de l'enfant, on peut mettre cet outil-là une vingtaine de minutes et, par exemple, pendant la causerie, ah, ça aide l'enfant à rester plus calme. Ou pendant une activité à la table qui demande plus d'attention, concentration. Ça peut être intéressant aussi. C'est un outil que je trouve aussi pertinent quand on a la gestion de devoirs à la maison. Donc, de pouvoir des fois mettre une certaine pesanteur sur les cuisses pendant que je me concentre dans mes devoirs, ça, ça va vraiment faire une différence. Pour un enfant qui a besoin d'être recentré ou un enfant qui a besoin de bouger. Si on revient dans le contexte de classe, des fois, on va recommander aussi aux enseignantes d'avoir peut-être, dépendamment de l'âge de l'enfant, un ballon ou un trampoline. Tu as des milieux qui sont plus ouverts que d'autres. C'est sûr que les classes adaptées, hein, les enfants qui ont des TSA ou les enfants qui ont des troubles de langage ou autres, on a des fois plus d'ouverture parce qu'on a moins d'enfants par classe. Et là, on va dire à l'enfant, va sauter pendant 5 minutes. 2 minutes, ça peut être ça aussi, là, et revient après. Donc, au lieu d'avoir un enfant qui saute partout dans la classe puis qui vient tout déconcentrer les autres, OK, moi, je t'envoie sauter 2-3 minutes sur le trampoline. Après ça, je te demande de faire telle tâche, 10 minutes concentrées.
Quand tu parlais des ballons, Sonia, est-ce que tu parles des ballons d'ergothérapie qui sont comme géants, là?
Oui, bien, tu as des ballons, tu as différents niveaux. Il y en a des ballons qu'on peut utiliser aussi où l'enfant a les pieds au sol, puis il peut l'utiliser un peu comme un ballon-chaise.
OK.
On voit ça. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Tu m'emmènes un très bon point. C'est que là, l'enfant, il peut bouger un petit peu sur le ballon, puis juste d'être en mouvement, il est plus concentré, il est plus attentif. C'est sûr que la problématique que moi j'ai déjà vue, si l'enfant se met à sauter partout dans la classe avec le ballon, là, le prof trouve ça moins drôle. Parce que ça demande une tolérance du prof aussi, hein, puis c'est pas toujours évident. Mais ce que je dis aux enfants, c'est écoute, ça te permet de bouger un peu, d'être concentré, ça me va, mais pas de se désorganiser. Donc ça, c'est un exemple. Donc l'enfant peut l'utiliser tout seul, peut l'utiliser avec l'adulte. Ça peut être, je mets un ballon dans un coin, les coins dans la classe, comme ça, il est plus stable. Puis là, je fais sauter mon jeune sur le ballon 50 fois, 100 fois. Puis après ça, je regarde s'il est plus disponible. Parce que ce qu'on connaît au niveau de la littérature, c'est que les mouvements linéaires qui sont rythmiques, donc je saute de façon assise dans le même rythme, ça va aider à organiser le système nerveux puis à être plus attentif. Ou des fois, ça peut être le mouvement aussi vestibulaire, mais qui est rythmique aussi, va aider à apaiser l'enfant.
Comme se balancer.
Exact. Ça, c'est plus dans des classes spécialisées où on va voir parfois une chaise berçante avec le jeune qui est assis, puis qui a besoin de se moduler. Et là, on va utiliser ce type d'équipement-là, que ce soit une chaise berçante ou des chaises suspendues, qu'il y a aussi dans certaines écoles. Donc, ça, c'est des exemples de stratégies qu'on peut mettre en place. J'ai le goût aussi de vous dire, pour les enfants qui sont plus hypersensibles, si on utilise des coquilles, je ne sais pas si tu as déjà vu les coquilles pour le bruit.
J'en ai moi-même quand je fais la vaisselle chez nous avec 3 enfants.
OK, quand même intéressant. Donc, les coquilles pour le bruit vont venir aussi à permettre de recentrer l'enfant dans une tâche pour diminuer un peu l'hypersensibilité. Ce qu'on recommande, c'est vraiment encore là une période d'une une vingtaine de minutes. Ça, on peut retenir ça. Si on utilise notre outil là, plus que 20 minutes, puis que ça dure 30 minutes, une heure, là, ça devient plus efficace, puis ça peut même venir masquer la problématique. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Mais ça, c'est un bel exemple, les coquilles, pour diminuer la surcharge sensorielle au niveau plus auditif. Au niveau tactile, moi, je dis souvent aux enseignants, mais aussi aux éducatrices, faites attention à la place que l'enfant a dans le rang. Est-ce qu'on peut, au lieu de le squeezer entre deux enfants en effet sandwich, est-ce qu'on peut le mettre en avant? Est-ce qu'on peut le mettre en arrière? Est-ce qu'il peut s'habiller sur une petite chaise un petit peu en retrait du reste du groupe pour juste comme diminuer, prévenir hein, tout ce qui est des hypersensibilités?
Question pour toi, Sonia. Ça fait quand même quelques années que je te connais, là. Comment t'apportes ça, toi, avec un prof, mettons? Là, j'ai un élève dans votre classe. Je sais que je dois poser des moyens adaptatifs pour lui. Puis le prof t'apporte son inquiétude. Mais là, est-ce qu'il y aurait danger par rapport à mes autres élèves si lui a besoin de grouiller, bouger? Comment t'apportes ça, toi, avec ta diplomatie que légendaire qu'on connaît, là?
Et ça, c'est une super bonne question. J'ai le goût de dire que, premièrement, ça dépend vraiment du prof. Parce que tu as des profs qui, au contraire, sont tellement... Ils connaissent ça déjà. Ils croient 100% aux mesures adaptatives ou à l'environnement qui est différent. Et ils vont avoir le goût de l'essayer. Puis, il n'y aura pas de problématique. Il y en a d'autres qui vont me poser cette question-là. Qu'est-ce qui arrive? Je le fais avec un. Est-ce que je le fais avec tous? Est-ce qu'on prend les enrôlots, puis à tour de rôle, tout le monde l'essaie? Moi, je pense que chaque enseignant a quand même sa propre vision. Puis moi, je leur fais confiance dans comment ils vont apporter le moyen à la classe. Mais souvent, la suggestion qu'on va faire, c'est au moins d'expliquer l'outil, de l'essayer. Ça peut être ça, là. On essaie le ballon. Chaque jeune, une journée dans le mois de septembre, essaie le ballon. Mais après, on explique que c'est vraiment pour ce jeune-là parce qu'il y a ce besoin-là particulier. Et l'autre jeune peut avoir un enfant hypersensible, puis un enfant hyposensible, ça ne sera pas les mêmes besoins. Un enfant qui a besoin de lunettes, un enfant qui n'a pas besoin de lunettes, bien, ce n'est pas les mêmes besoins. Fait que souvent, on va l'expliquer en démystifiant l'outil, en expliquant le pourquoi et en respectant la différence. Puis moi, je trouve que c'est un beau moyen en même temps de parler des fois de la différence puis de l'inclusion des enfants. Ouais.
Donc, dans ton rôle, tu es appelée à faire ça. J'imagine aussi que tu fais peut-être des plans d'intervention où tu dois suggérer peut-être des petites camisoles comme j'ai déjà vu ou des petits sièges bleus là, en forme de fromage pour mettre sur les chaises ou tout ça.
Oui, peut-être ça peut être intéressant aussi de ramener ce que tu me nommes. Il y a un aspect qui est, mettons, les coussins. Là. Le fromage qu'on dit, là, c'est un coussin avec un angle. On appelle ça un coussin Movensit qui, lui, va aider aussi la posture parce que ça va aider le redressement au niveau du bas du dos, l'extension du dos qu'on appelle. Puis ça va aider l'enfant à être mieux positionné. C'est pour ça que ça prend quand même des ergos pour venir préciser quel outil on a besoin. Mais moi, aujourd'hui, dans le podcast, pour les parents qui nous écoutent, là, je voulais quand même dire que si tu as un enfant qui a un bon tonus musculaire, là, qui se développe bien, on peut essayer des coussins qu'on appelle des discocytes, qui vont être un peu comme le ballon, un peu en mouvement, et qui va permettre à l'enfant encore là d'être comme plus disponible. Si tu as un enfant qui manque de tonus, qui est malhabile avec son corps, bien là, des fois, on est mieux d'aller avec l'autre coussin qui va donner plus de stabilité. Toujours pour des périodes d'à peu près une vingtaine de minutes. Pour répondre à ta question, Guylaine, là, tu me parlais des vestes compressives. C'est des choses qui existent. Ça prend des recommandations en ergothérapie, des couvertures ou lourdes, des vestes compressives ou des vestes lourdes ou des couvertures lourdes qu'on utilise plus en garderie, je te dirais. Recommandations d'ergo, absolument. Puis des techniques de désensibilisation comme du brossage, des compressions aussi. Ça prend vraiment des recommandations en ergo. Mais le reste que je vous ai parlé tantôt, les petits moyens, trampoline, ballon, matériel lourd, coussins, c'est quand même des outils intéressants, fidget à manipuler, qui peuvent vraiment faire une différence dans l'adaptation des devoirs, par exemple, à la maison ou en classe. Fait que ça, c'est important. Ça me fait penser aussi, des fois, pour structurer le temps, on peut utiliser ce qu'on appelle un time timer. Et visuellement, on va voir. Fait qu'avec des enfants, des fois, qui ont des difficultés, on est mieux d'en faire moins, mais de le faire mieux. Fait que l'autre stratégie qu'on va apporter, qui peut bien se faire dans ces contextes-là, c'est de dire, OK, on fait un 10-15 minutes de tâche X, puis on va permettre à l'enfant de bouger un 10-15 minutes. Dans les écoles, on voit des fois des parcours actifs dans le corridor. Hein, moi, j'ai une collègue qui travaille chez Kid Planet, puis eux, ils ont vraiment, là, je les mets un peu en valeur, mais c'est parce qu'ils ont développé des parcours actifs pour les écoles qu'on vient coller. Puis là, l'enfant fait des sauts, des poussées au mur, des marches d'animaux, vraiment des activités proprioceptives, contre-résistance, etc. Et là, ça, c'est le fun parce que le prof va dire « Hey, va dans le corridor avec ton ami un petit 5 minutes, va faire le parcours, puis reviens après. » Puis là, quand il revient, en général, on voit une belle différence parce que ça l'a répondu au besoin de bouger. Puis là, il est capable d'être plus concentré. Fait que ça, c'est vraiment aidant dans des contexte comme ça, scolaire.
Bien, merci beaucoup, ça explique. Je t'amène sur un autre terrain. Pour ce qui est de la disponibilité de l'enfant en classe, là, il y a différents facteurs qui peuvent le déranger. Là, quand on parlait tantôt d'un enfant qui aurait des symptômes de TDAH, est-ce qu'il y a, tu peux nous expliquer la différence entre les stratégies sensorielles qui sont plutôt d'ordre attentionnel versus d'ordre affectif?
C'est une bonne question, parce que c'est tellement interrelié. Les deux sphères sont tellement interreliées. Je pourrais pas venir départager de façon très détaillée, mais là, on est plus dans le sensoriel, dans l'attentionnel. C'est sûr que si l'enfant a vécu une frustration, par exemple, durant la journée, à la récréation ou autre, ça va affecter sa disponibilité attentionnelle aussi, parce qu'il aura vécu un conflit. Peut-être que là, à ce moment-là, ça serait plus un retour avec la TES qui va être pertinent pour comprendre le conflit, puis venir démystifier l'aspect plus, tu as raison, là, d'habileté sociale qu'on voit chez les jeunes qui ont des difficultés, entre autres chez les jeunes TSA. Là. Fait que tu sais, c'est comme quand même, ça peut être multifactoriel, tout ça. Par contre, de donner des pauses à l'enfant pour aider son attention, de faire des retours au calme, d'intégrer des techniques même de yoga. Hein, ils font ça de plus en plus dans les écoles. Yoga, massage, pression profonde au niveau du dos, avec des balles des fois, des balles tactiles. Ça, on voit, puis les données aussi scientifiques le démontrent de plus en plus à quel point c'est important de mettre ça en place pour vraiment maximiser le rendement et l'engagement des enfants. Et même, je te dirais, Guylaine, que je vois ça de plus en plus dans les entreprises, chez les adultes qui font des pauses yoga ou qui vont intégrer justement des temps où la personne va aller marcher dehors pour se recentrer, puis ça monte l'efficacité au travail, ça l'augmente, je veux dire, l'efficacité. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que quand on laisse l'être humain se recentrer, puis ça me fait le lien avec ton podcast qu'on a fait,
hein?
Exact,
oui, oui.
Sur les émotions, sur la pleine conscience, on voit qu'à quelque part, c'est tout interrelié aussi.
Excellent. Maintenant, selon toi, là, ton expertise, est-ce qu'il y a un lien entre l'utilisation des écrans, on en parle souvent, là, la dépendance à tout ça, les téléphones, les tablettes, les télés, avec toutes les applications de clics rapides et maintenant l'incapacité de ces jeunes-là, qui peut-être surutilisent tous ces appareils-là, à être capables d'avoir une attention qui est soutenue en classe, de rester concentrés? Si oui, comment on adresse ça donc?
Ouais, c'est tout ça, c'est la question du jour, hein? La question à 100 000 $. Oui, c'est sûr. Puis les données probantes commencent déjà à sortir. Je pense même qu'ils sont sortis là. Je parlais de ça avec une collègue qui est psychologue là. Puis c'est ça qui m'expliquait. Puis on le voit cliniquement. Qu'est-ce qui arrive quand on a un jeune qui est devant son écran? Ça va super vite, les informations. Fait qu'il est tout le temps stimulé. Il n'y a pas besoin d'avoir un certain niveau d'attention soutenue longtemps. Parce que c'est quoi l'attention soutenue? C'est être capable d'écouter quelqu'un qui nous parle, par exemple, ou faire quelque chose, même quand ça devient moins intéressant. Hein? Quand c'est pas toujours stimulant, quand on n'a pas toujours de la dopamine, on est capable de quand même maintenir un certain niveau d'attention pour être fonctionnel. Fait que là, si je fais le lien avec les écrans qui donnent de la dopamine sans arrêt, bien, je travaille pas ce niveau-là d'attention qui me demande un effort. Et donc, quand j'arrive en classe et que je dois écouter l'enseignante ou me mettre au travail, bien oui, ça me demande beaucoup plus d'efforts et d'énergie parce que le cerveau, il est comme enrouillé Hein, c'est comme si le muscle n'avait pas travaillé. C'est ça le fléau. Puis moi, j'ai deux adolescents, puis on est pris avec ce fléau-là aussi. Et de là, les changements gouvernementaux aussi, hein, qui ont fait pour mettre le cellulaire plus de côté, puis essayer de se réapproprier finalement les apprentissages. Mais le problème, c'est qu'on a besoin des technologies. Fait qu'il faut comme le faire dans un certain encadrement. Et je pense qu'on gagnerait à avoir des balises beaucoup plus claires pour nos jeunes par rapport à ça.
Tout à fait, parce que même comme toi, j'ai des enfants au secondaire, puis l'ordinateur est de mise là, pour faire les devoirs. Fait qu'ils passent la journée, certaines périodes, à l'ordinateur à l'école. Ensuite, à la maison, ils doivent faire des devoirs, des recherches sur l'ordinateur. Moi, je vois ça souvent en difficulté pour les enfants de tomber endormis. Difficulté de sommeil.
Ouais,
on atrophie les cellules de cerveau à un moment donné, ouais, là, à force de...
Ouais, puis ce qui est triste, tu sais, puis je voyais ça justement, il y avait un article, je pense que c'est dans la presse la semaine passée, qui disait que justement, les enfants qui ont des TDAH, on le sait aussi, vont être plus attirés vers les écrans. Et là, tu tournes en rond dans ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la misère aussi à s'organiser, même tu sais, au niveau des fonctions exécutives, puis on en reparlera dans un autre podcast, mais ils ont déjà des difficultés à ce niveau-là. Fait que là, eux, ils sont nourris, là, avec toutes les émotions fortes des jeux vidéo ou avec les écrans. Fait que ils perdent l'intérêt de venir à la maison construire quelque chose ou développer un jeu X, Y, Z. Alors,
oui. Suivre des consignes aussi, là. Si un enfant, par exemple, je vois souvent, toi aussi, en difficulté de développement, par exemple, anciennement, on avait le petit livre qui vient avec les Legos.
Mm-hmm,
c'est modèles. Beau, la créativité, là, mais est-ce qu'on est encore capable de suivre les modèles? Les enfants qui vont s'asseoir puis voir comment ça marche. Ou un adulte avec le livre qui dit avec IKEA, là, tout comment faire les pages après page après page. Fait qu'un enfant qui interrompt, qui lève la main, qui veut parler en même temps que tout le monde, son attention est à développer. Il y a un retard de développement.
Fait que c'est pour ça que je pense que quand on est à la maison là, puis qu'on a nos jeunes, c'est important. C'est une des stratégies aussi, c'est de leur donner du temps de jeu libre. Okay, mmh. Où l'enfant peut être créatif ou bien, s'il décide de suivre un plan X, de pouvoir l'accompagner comme parent puis valoriser ce type de tâche-là. Fait que c'est pour ça que quand on parle des stratégies sensorielles, moi, je préfère de beaucoup mettre des stratégies sensorielles en place, dire à l'enfant « OK, je te jette un trampoline, saute sur le trampoline puis reviens. Après ça, on va travailler ensemble moins longtemps, mais efficacement que d'avoir des intercations plus au niveau du comportement avec l'enfant puis finalement de ne pas l'investir à ce niveau-là parce qu'on manque de stratégie. C'est pas toujours facile avec les enfants qui ont des particularités dans leur développement, mais ces stratégies-là font leurs preuves. Puis quand on est, qu'on prend le temps de mettre des périodes comme ça de jeu à la maison ou de soutien dans les devoirs, bien, on voit vraiment une plus-value. Donc oui, dans ce sens-là. Fait que c'est un peu ça, les stratégies sensorielles aussi, là. L'importance d'avoir, comment je peux dire, d'autres moyens, hein, pour aider les enfants à être vraiment plus disponibles dans leurs apprentissages.
Merci beaucoup, Sonia. En dehors du travail que tu ferais, toi, là, est-ce que tu apprends aussi à l'enfant lui-même à s'auto-réguler ou trouver des méthodes, des situations, des stratégies que lui, il n'aura pas besoin nécessairement d'équipement autre pour oui. être capable de s'auto-réguler que lui, de lui-même, d'emblée?
Ben oui, mais c'est ça l'objectif. Tu sais, dans le fond, là, on travaille en prévention quand on travaille dans les garderies, dans les écoles. Puis c'est super important parce qu'ils en ont un gros groupe puis ils ont besoin là, d'avoir des outils pour les soutenir, surtout présentement. Là. On sait qu'il y a à peu près le tiers des enfants qui ont des plans d'intervention dans les écoles. Là.
Tant que ça, maintenant.
Ouais, ouais, y en a vraiment beaucoup. Mais moi, mettons, en intervention, si j'ai un enfant, justement, qui a des particularités sensorielles, le but, c'est de permettre à l'enfant de se comprendre. Puis, à ce sujet-là, il y a des livres sur l'hypersensibilité, entre autres, qui sont sortis, ou sur le trouble de régulation, modulation sensorielle, des fois des éditions Sainte-Justine. Il y en a un autre, c'est l'hypersensibilité chez l'enfant, qui a été vraiment bien, bien écrit. Puis moi, des fois, je les utilise avec mes jeunes. Puis là, ce qui est le fun, c'est que je vais leur dire, OK, toi, mettons, c'est quoi qui te rend inconfortable? Puis je te donne un exemple, un vrai exemple que j'ai eu cette semaine, une jeune qui est incapable de tolérer des vêtements, est incapable de tolérer des collants. Les coutures des bas, tout quand c'est trop serré est vraiment inconfortable. Et ça fait des crises incroyables. Fait que là, je vais travailler avec l'enfant parce que je vais lui expliquer qu'est-ce qui se passe dans son corps puis qu'est-ce qu'elle peut faire comme stratégie. Des fois, on sait que quand on fait des pressions profondes, ça va venir comme un peu enlever l'inconfort aussi. Donc, exemple, mettre de la crème solaire, bien, au lieu de l'appliquer comme ça, je vais venir l'appliquer avec des pressions profondes, des massages. Déjà, ça va aider l'enfant. Les coutures des bas, des fois, on peut juste tourner le bas à l'envers. Ça a l'air facile, mais on y pense pas toujours, tu sais. Fait que, ou respecter qu'il y a une pointure de plus dans le linge parce que trop serré, l'enfant est pas bien, par exemple. Fait que, oui, ce boulot, on va le faire avec l'enfant, avec la famille. Puis quand la famille comprend le pourquoi des crises de l'enfant au quotidien, là, parce que ça peut être vraiment l'enfer pour une famille. Là.
Mm-hmm.
Ça vient tellement enlever de poids puis de stress aussi.
La qualité de vie.
Oui.
Atteindre les routines.
Oui, exact. T'sais, on y pense pas quand ça va bien, mais quand il y a ces défis-là. Fait que oui, je vais donner des stratégies comme ça à l'enfant aussi pour s'auto-moduler. Puis, comme je disais, il y a des techniques beaucoup plus pointues, mais là, ça prend vraiment des services spécialisés en ergothérapie à ce moment-là. Ben, peut-être en terminant, dans le fond, je pourrais résumer un peu. Vous pourriez aller voir sur des. Ben, les parents que ça les intéresse, là, j'ai le goût de donner des sites. C'est sûr qu'il peut en avoir sur Amazon, mais mettons, ici au Québec, là, il y a deux compagnies qui travaillent. Je vous dis, je ne leur ai même pas parlé avant de faire le podcast. Mais bref, il y en a une qui s'appelle FDMT, donc fourniture de matériel thérapeutique.ca, qui est située sur la rive sud. Et il y a kitplanet.ca, qui sont situés à Boisbriand. Eux, ils ont vraiment du matériel spécialisé pour les jeunes, entre autres pour la rentrée scolaire. Et il y a beaucoup de choses que comme parents, comme prof, comme éducatrice, vous pouvez utiliser, comme je vous disais. De toute façon, il y a des fiches descriptives souvent, fait que ça l'explique le pourquoi aussi. Tu vois, je t'apprends à penser, des fois, on peut utiliser des Chewy aussi, ou des comment je peux dire, pour venir mâcher. Puis ça aide la concentration, des embouts, je cherchais sur les crayons. Juste de venir mâcher un peu, ça donne de la proprioception, puis ça aide aussi en classe. Fait que vous allez pouvoir regarder, dans le fond, le matériel qui est là. Et moi, je vous en ai parlé quand même de plusieurs. Là, j'ai parlé des coussins, j'ai parlé du matériel lourd, j'ai parlé des coquilles, j'ai parlé des élastiques, du time timer aussi. J'essaie de voir là, si j'en oublie.
Les petits sabliers,
les petits sabliers, oui, les fidgets. Ouais. Les sabliers, ça, c'est intéressant. Il y a les sabliers liquides qu'on peut avoir, qui peut être très calmant aussi pour un enfant qui serait hyper sensible. Il pourrait regarder un petit sablier liquide, puis ça pourrait l'aider à être...
À l'apaiser.
Oui, à l'apaiser.
Il est capable d'être patient jusqu'à temps que le prof soit capable de répondre à sa question, là, oui. S'il était si pressé.
Absolument. Okay. Alors, ces liens-là, dans le fond, là, des sites que je vous parle, on va les mettre sur notre podcast, puis on va aussi les mettre sur notre site Internet. Donc, vous allez pouvoir aller voir, puis moi, j'invite vraiment les parents à aller fouiller un peu, aller lire un peu, puis aller voir s'il y a des éléments qui pourraient se procurer pour aider vraiment les jeunes à bien partir l'année. Tu sais, quand on part du bon pied, là, Guylaine, on se sent tellement mieux, là. Fait qu'être bien structuré, avoir les bons outils, puis au besoin, bien là, c'est sûr qu'il faut, si jamais il y a des besoins plus spécifiques, n'hésitez pas à consulter en ergothérapie ou vers d'autres professionnels.
Bien, merci beaucoup, Sonia. Ce fut hyper instructif, mais tu nous mets l'eau à la bouche, là. On a besoin d'en savoir plus. Ton prochain podcast, de quoi voudrais-tu, toi, nous parler?
Bien, dans le prochain podcast, j'aimerais ça qu'on vous parle, qu'on puisse parler des difficultés de motricité. Parce que là, on met la table avec les sens, mais on a tout ce qui est de la motricité globale, puis on a de la motricité fine aussi, qui est important, entre autres, en bas âge, pour le développement de l'enfant, hein, pour qu'il apprenne à bien jouer, mais aussi pour éventuellement apprendre l'écriture à l'école, l'écriture,
les ciseaux.
Exact. Toutes les habiletés préalables au développement, si on veut, de l'écriture. Fait que ça pourrait être un prochain podcast, je pense, qui pourrait être intéressant pour nos profs.
En début d'année, tout à fait. Ça répondrait à plusieurs besoins. Merci, Sonia.
Ouais, ça me fait plaisir. Puis si vous voulez nous écouter, donc je vous donne les plateformes, en fait. Il y a la plateforme de Apple où vous pouvez aller chercher nos podcasts. Il y a Spotify et il y a Balado. Et ça, si vous allez directement sur ces endroits-là, vous allez pouvoir vous abonner et vous allez recevoir par la suite nos autres podcasts de façon automatique. Et finalement, on a nos propres site Internet. Donc, moi, c'est www.alternativecaméléon.ca. J'ai une partie où vous pouvez vous inscrire dans la communauté Caméléon. Puis ça me permettrait de vous envoyer les mises à jour. Si jamais j'ai des articles aussi scientifiques ou des informations, des formations, vous pourriez les recevoir directement via cette inscription-là.
Et au plaisir, Sonia, de te contacter. Puis tous les parents, les profs, les commissions scolaires qui auraient des besoins en ergothérapie, je suis certaine que les trucs que tu as donnés aujourd'hui, encore une fois, mettent l'eau à la bouche.
Bien, j'espère. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci, Guylaine, pour ta présence, puis je vous souhaite une bonne rentrée.
Bonne rentrée, tout le monde!